Vous écoutez
RMC.
RMC.
On n'était pas bon avec le ballon, puis on n'était pas bon sans ballon. Ça fait un peu beaucoup pour moi.
En Ligue des Champions, on sait que c'est des matchs coupe-gorge, voilà, où il n'y a pas le temps de réfléchir, il faut être performant à l'instant T.
Je ne veux pas dire qu'il nous manque la réussite. Il nous manque la réussite, mais il ne nous manque pas que la réussite.
Jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
Bonsoir à tous, l'after continue jusqu'à minuit en direct, comme tous les soirs, l'after sur RMC, l'after sur la chaîne YouTube, after-foot, qui vous permet de nous voir, nous écouter, évidemment. Florent Gautreau est là, salut Florent.
Salut à tous.
Et Daniel Riolo est là également, salut Daniel.
Bonsoir les amis.
Vous connaissez l'after évidemment, votre espace de liberté à vous les supporters de foot. On va parler Ligue 1 ce soir parce que l'événement, eh bien, c'est que notre championnat peut se jouer en grande partie après-demain. Après-demain mercredi, Paris peut être champion et il y a le match Monaco-Lille qui lui peut déterminer la deuxième place du championnat. Nous allons en débattre dans quelques minutes. Daniel, lui, veut donner son avis sur la dynamique du PSG après le match d'hier soir. Monaco-Lille en parlera avec les dernières infos. Florent, toi, tu veux revenir sur la soirée de l'entraîneur lyonnais Pierre Sage hier soir au Parc des Princes et tu veux le soutenir. Ce sera tout à l'heure après 23h. Nous ferons également un point sur ce qui se passe à Brest et les Brestois qui vont pas très fort. Les Brestois peuvent-ils encore tout perdre? On en débattra avec vous tout à l'heure au 32-16. Sans oublier l'Italie, derby de Milan ce soir, l'Inter mène 2-0.
Et l'Inter va être championne.
Voilà, en cas de victoire de l'Inter ce soir, l'Inter serait champion. Johan Crochet sera là avec nous tout à l'heure. Le 32-16 est ouvert pour tous ces sujets. Direct Studio est là également sur vos applis RMC et RMC Sport. Direct Studio, c'est la messagerie gratuite d'RMC qui vous permet de nous envoyer des messages. N'hésitez pas à le faire. Jusqu'à minuit, autre résultat, Daniel, important en Italie. Bologne a gagné à Rome 3-1. Il pourrait jouer la Ligue des Champions la saison prochaine.
Tant qu'ils ont 5 places en Italie, donc Bologne doit être largement dans le coup. Là.
Exactement.
Plus même que dans le coup.
Voilà, on aura Johan Crochet qui
Bologne
nous expliquera tout ça.
Bologne, emmené par l'excellent Thiago Motta.
On a un invité ce soir, Daniel, qui est un ami de l'after, qu'on connaît depuis quelques années, depuis les RMC Sport Games, qui est très investi dans le sport. C'est Marco Pacioni. Marco, bonsoir.
Bonsoir.
Marco, qui est le créateur et patron de Pure Essentiel.
Oui.
Entre autres activités.
Non, mais surtout Pure Essentiel, bien sûr. C'est vrai que je suis avec vous depuis longtemps maintenant, parce que pratiquement 20 ans, les RMC Sport Games.
C'est vrai.
Donc, on a passé du bon moment ensemble. Vous avez vu la marque grandir. Vous la connaissez un peu.
On a grandi en parallèle.
On a grandi en parallèle. On avait tous ces sportifs qui l'ont porté aussi. On a commencé avec Tony Estanguet. Après, on a eu Tony Parker.
Tony Estanguet.
Tu fais tous les Tony.
Ben oui, c'est ça. Antoine Dupont, Tony.
Tony Vérel.
Non, on l'a pas rencontré. Mais
toi,
voilà,
tu fais plein de choses, mais tu as une vraie grande passion pour le sport et notamment le PSG. Et ouais, j'imagine que la période actuelle, ça doit te plaire parce que je sais que tu as pas mal morflé les dernières années.
C'est vrai que je suis un vrai supporter du PSG. J'y allais avec mon père, j'allais au parc, j'allais même voir le Paris FC avant même que ça soit le PSG. Donc j'ai même acheté ma maison, elle est collée au Parc des Princes. Donc tu vois, et donc j'y vais à pied.
Ça n'existe pas. Ah, tu veux dire, t'es dans le T en face.
Oui, je suis un peu pas collé, mais je suis à 150 mètres, quoi, pas loin. Non, j'aime beaucoup le
seul qui peut te garer dans le périmètre les soirs de match.
C'est ça. J'aime bien le foot en général.
Si t'es là, c'est parce que Daniel a l'habitude dans l'after depuis des années de dire tiens, j'aime bien Rolex, pour qu'on t'envoie une Rolex, ou j'aime pas Sodebo. À l'époque, on avait fait ça. Et Sodebo nous avait gentiment livré des pizzas.
Non, on avait eu Léon aussi. Léon de Bruxelles, tu sais pas quand ils avaient livré les moules?
Ah oui, exact.
Ils avaient reçu plein de moules. En fait, c'est qu'avec les produits de luxe que ça marche pas.
Et l'autre jour, on a parlé de Pure Essentiel, j'étais pas là. Et du coup, plutôt que de te ramener le produit Pure Essentiel, on a carrément le patron. Tu vois, c'est mieux.
Bah, il est venu pour me dire merci de tout le bien que j'ai dit de cette marque.
Non, mais c'est vrai que merci, hein, Daniel.
Sauf de. C'était quoi le truc là dont on avait parlé?
Il y avait débat sur le roller.
Ah, il y avait débat. Donc c'est pour ça qu'il fait bien de venir pour bien confirmer. Ouais. Le roller.
Pour bien confirmer,
quand
on
fait du sport, on peut se passer ça dessus, ouais. Et ça marche bien.
Bon, on a une gamme articulation et muscles que vous connaissez, dans lequel il y a un roller. D'ailleurs, on a fait un roll-on, quoi. C'est une bimassante. Et d'ailleurs, on a fait une étude sur les arbitres. Et qui l'ont utilisé, et c'est prouvé qu'il y a un effet relaxant.
Mais c'est plutôt
ça le dit pas trop, parce qu'en ce moment, l'arbitrage français a des problèmes.
Et aussi sur
ils sont moyennement relax, c'est temps.
Et aussi pour certains, c'est pour les chevilles. Ouais. Pour Turpin, tu peux y mettre un roll-on pour diminuer aussi, le tour des chevilles.
Et aussi sur les anciens sportifs, les anciens footballeurs, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'arthrose du genou. principalement sur ceux qui sont fait des ruptures des ligaments, où pratiquement dans 70% des cas, ils ont arthrose du genou, mais même dans 40% des cas.
C'est pour toi, c'est à flot.
je suis blindé d'arthrose. J'ai fait d'IRM, c'est une cata.
Et on s'est rendu compte avec nos produits que ça pouvait remplacer les anti-inflammatoires.
Ah, d'accord.
Donc on a fait une étude avec, à l'hôpital Foch. Donc il y a une vraie efficacité prouvée. Hein. Et aussi bien des gels, des baumes que l'on a, et voilà, c'est pour ça qu'on travaille avec
toi,
des grands champions.
Vu que t'as un problème avec Tony Parker, comme c'est Tony Parker qui faisait la pub, t'as douté de ça. Bon, le faux cul.
Bon, Tony Parker, il a été avec nous pendant 8 ans. Maintenant, c'est Antoine Dupont.
Ah,
et Pauline Bourdon. Et Pauline Bourdon.
Future championne olympique,
Pauline
on l'espère.
Bourdon qui est.
Ah, Pauline Bourdon.
La numéro 9 de l'équipe de France.
C'est la cousine, c'est la cousine de Maïa Labeille.
J'en attendais une autre de ta part, Flo.
Oui, je pensais que tu allais faire une blague avec l'acteur.
Ou sur Notre-Dame.
Non, un truc avec la guêpe et tout. Je sais pas.
Avec Laura Flessel.
Voilà.
Il y a un truc qui nous intéresse quand même, parce que c'est rare qu'on ait, on va dire, des grands patrons autour de la table. Toi qui suis le PSG, tout à l'heure on va en parler avec Daniel, mais quand tu vois la gestion du manager Luis Enrique, qu'est-ce que t'en penses ? Tu dis bravo ou des fois tu te dis il fait des trucs étonnants
Non mais au moins c'est bien parce que comme ça on a une surprise à chaque fois, donc c'est plutôt sympa. et puis ça paye, ça gagne. Donc moi je suis plutôt content qu'il soit là. Hier c'était un match superbe, je suis allé le voir, c'était fantastique. On fait 4-1 première mi-temps, c'est pas l'équipe type, il y a des joueurs qui jouent, ça fait plaisir. Moi j'aime bien, forcément j'aime bien. Et on est en finale de Coupe de France, on va être champion de France.
C'est sûr,
on est en demi-finale de la Champions League.
C'est vrai que l'an dernier, on l'a rappelé, j'ai pas quand hier ou avant-hier, l'an dernier à la même époque avec Galtier, t'étais plus en Coupe de France, t'étais plus en Ligue des Champions. Et
mais la,
pas
saison,
autant de
mais
marge.
La saison dernière, c'est comme si elle n'avait pas existé. Mm. C'est d'où ce doublement de passion que tu as cette année, parce que tu sors d'une année absolument terrible. Celle d'avant n'était pas géniale non plus, avec cette fin d'aventure à Madrid, toujours dans la honte. Là, c'est une sorte de renouveau.
Oui, non, ça fait plaisir. En tant que supporter, tu peux forcément que l'apprécier.
Tu vas aller en finale avec des champions s'il y a une finale ?
Oui, je pense que tu seras.
Ouais, je vais y aller. Ouais. Je vais plus au match retour parce qu'on perdait souvent. Donc, tu sais, parfois les matchs, on fallait qu'on y aille. C'était loin. Tu revenais, t'avais perdu, c'était dur. Mais la finale, je vais y aller quand même.
Ouais.
Je vais pas aller au match aller à Dortmund. Non, je vais regarder chez moi.
Je me permets une question quand même. Parce que comme tu fréquentes les coursifs du Parc des Princes, les loges, tout ça. Les patrons de boîtes à Paris là, ils sont passionnés par le PSG. Tu vois beaucoup de monde dans les loges ou finalement pas tant que ça. Parce que on a l'impression, bon, on a Arène, Pinot. On a l'impression que les grands patrons français, ils sont pas picousés par le foot.
Ouais. Après moi, je suis pas un grand patron. Hein, j'ai une belle marque, mais je suis pas un grand patron français.
Tu comptes dans
le game. Je les entends. Mmh. Et puis je sais pas, je les croise pas vraiment. Nous, en tout cas, dans notre loge, parce que moi j'ai une loge et que j'utilise beaucoup, où j'invite forcément des clients, des partenaires. On passe toujours un très bon moment, et c'est très convivial, ça reste du sport.
Il paraît que t'invites, il y a une vieille légende, il paraît que t'invites des gens de la maison qui reviennent dans la tribune à la 50e. Je sais pas ce qu'ils font entre la 45e et ils sont un petit peu en retard.
Tu parles de Denis ?
Ah, il y a des légendes, j'ai pas plus cité de nom.
On le salue, Denis Charvet.
D'ailleurs, je le vois saluer parce que c'est vrai qu'il a eu cette opération mardi dernier.
Ah, ben, voilà. J'étais pas au courant.
T'inquiète, il récupère.
Je sais pas si on peut le dire vraiment, mais en tout cas, il a une vraie, grosse opération mardi. Donc, si on peut.
J'ai un message d'un supporter de l'OL qui disait qu'à chaque fois, avant d'entrer sur scène, il utilisait tes produits, il se massait, il dit pas quel produit, mais il se massait avec un produit pur essentiel. Il dit, comme t'es content du match d'hier, du coup, il va boycotter. Il utilisait beaucoup tes produits, mais le match d'hier, je crois que...
J'aime bien le foot en général, et j'aime bien beaucoup d'équipes du championnat. Bon, après, moi, je suis né dans les Ardennes, donc j'aime bien Sedan.
Ah oui.
L'italien, vous avez parlé d'Italie, j'adore le club de Florence. Donc j'aime le foot.
Et si tu prononces trop de clubs, on va dire que t'es un footix au bout d'un moment. Donc
non, j'ai cité des clubs.
Les trois.
Pas tous en ligue.
On a un peu de vision.
Bon, bah Marco, merci d'être passé nous voir. C'était sympa.
Prie. Merci à vous. Hein, c'est très
et
bien.
Puis, à bientôt. Bah, on se retrouve très vite. Hein.
Ouais. Merci de votre accueil. Merci.
N'oublie pas le Rollon, Daniel.
Je vous apporte demain. Je vous en amène. Hein.
Ah. Super. C'est pour l'arthrose de Flo.
Ouais.
Merci. Au revoir.
Ciao.
Ciao. Ciao.
Je demande un jingle de Riolo.
Il a pris le ballon.
Oui, parce que.
Il est très light, hein, celui-là. C'est quoi ça? Je me souviens même plus.
Tu t'es absenté quelques jours? Tu t'es reposé?
Je pense que c'était une imitation de. Verratti.
Pas encore. Non, c'est pas celle-là.
Non.
Très bien.
Je disais donc, tu t'es absenté quelques jours. Tu n'étais pas là hier soir dans l'after. Flo était là. Walid a pris ta place.
Ah oui, j'ai cru entendre. C'est arrivé jusqu'à moi, le bain de pied avec les huiles essentielles. Ils se sont massés le dos.
Walid et Flo ?
Oui, les deux, ils se sont massés le dos.
Bah, ils ont donné leur avis.
Ils se sont lavé les pieds.
Tu voulais faire le point un peu sur les différents dossiers PSG.
On regarde les choses factuellement. Alors,
on va te laisser dérouler ton avis sur la dynamique actuelle parisienne, Daniel, sachant que donc, je rappelle que dans 48 heures, là, le PSG pourrait donc être champion.
C'est une super fin d'année pour le football français avec le PSG et l'OM en demi-finale de Coupe d'Europe. Je crois que c'est quelque chose qu'on n'attendait pas forcément, puisque le PSG était soi-disant lancé dans une année qui ressemblait à une année de transition, puisque je me souviens qu'au mois d'août et septembre, la grande majorité des gens pleuraient sur les stars parties et cette équipe qui était en construction. Et puis alors l'OM en demi-finale de Coupe d'Europe, franchement, c'était encore plus inattendu, et même avant Benfica, encore moins, quoi. Donc, il y a énormément de passion déjà en temps normal autour de ces deux clubs. Mais alors, avant les demi-finales de Coupe d'Europe, il y en a encore plus. Et en fait, ça déborde beaucoup, ça éclabousse, ça ne nous conduit pas forcément à tout relativiser et à tout bien comprendre. Tout est beau, tout est formidable. J'ai envie, moi aussi, de ne pas me gâcher cette fin de saison, parce que j'ai envie que ces deux équipes aillent au bout. Et surtout une, puisque j'attends quand même à titre perso cet événement depuis pas mal de temps. Donc j'ai pas envie de me le gâcher. J'avais déjà dit il y a un peu plus d'un mois que je voulais arrêter de me gâcher dans des polémiques inutiles. Donc je voudrais ce soir ranger quelques dossiers et qu'on arrête les faux procès ou faire dire ce qu'on n'a pas dit, puisque finalement tout ce qui est en train de se passer au PSG, je l'avais dit dès la première partie de saison, et d'ailleurs très gentiment des gens, parce qu'il n'y a pas que des gens qui insultent sur les réseaux sociaux, il y a aussi des gens qui savent ce qui s'est dit au long de l'année et qui me l'ont rappelé. Donc je vais lire un petit passage. C'est exactement ce que j'ai dit au mois de novembre, qu'il y a désormais une équipe au Paris Saint-Germain et un entraîneur qui travaille. Emery et Tuchel, qui étaient deux entraîneurs que j'aimais beaucoup, avaient fini par perdre pied et perdre la tête parce que la gestion des stars était devenue impossible pour eux. Et j'ai ajouté à ce moment-là que Luis Enrique, lui, ne perdrait pas la tête. Il pourra faire de mauvais choix. C'est quelqu'un de fascinant qui, sur un match couperet, peut sortir un truc qui va scier les pattes par conviction personnelle. Il va falloir accepter cette personnalité qui va être un feu d'artifice ou un seau d'eau sur la tête, car il va toujours sortir un truc un peu foufou. Il faut l'accepter, il est comme ça.
Donc là, tu t'auto-cites, en fait.
Exactement. Mais au moins, on a un club de foot et une équipe, et on aura une saison intéressante. Donc c'est exactement ce que j'avais dit.
Qu'est-ce qui t'a fait, juste après, je te laisse continuer, mais
fait sortir de ça?
Non, mais qu'est-ce qui t'a fait sortir du fait que si t'as été lucide en novembre, tu ne l'étais plus en février en disant cette équipe n'avance pas, le mec est fou, il fait n'importe quoi et c'est pour ça qu'on va perdre. T'as dit ça après le match aller. Hein.
Alors.
C'est pour ça qu'on a perdu plutôt.
Bah, le match aller, il n'était pas, ouais, il était pas réussi, je sache.
Non, mais qu'est-ce qui a fait qu'entre le mois de novembre, si t'as dit mais ça en fait, mois de novembre et le mois de février?
En fait, je te l'ai expliqué un soir et vraiment, je te promets, et je veux que ce soit la dernière fois. C'est pas parce que tu gagnes. Deschamps, c'est quelqu'un qu'on a beaucoup critiqué.
Je suis d'accord, je te dis juste que ce soir-là,
et ce gars-là était champion.
Le soir de la défaite, le match aller, c'était une défaite. Moi, je maintenais mes propos sur Luis Enrique. C'est ça l'histoire. Toi, tu dis c'est pas parce qu'on gagne. Moi, avant même le retour, je maintenais la même chose.
Donc, moi, ce qui a beaucoup,
c'est l'évolution qui m'intéresse.
Moi, ce qui a beaucoup choqué les gens, et je vais le redire et assumer à 100%, je m'autorise, je me donne le droit de juger l'humain. Comme on le fait pour d'autres entraîneurs, comme on dit que Deschamps, soit on n'aime pas son style de jeu, comme j'ai pu dire que j'avais pas aimé sa gestion de Benzema.
Mais en quoi le fait que t'aimes, pas l'humain a une influence sur le jeu du Paris Saint-Germain?
Mais le jeu, à part
sur le management plutôt.
Mais le management, je te l'ai expliqué 100 fois, je veux bien répéter 1000 fois, mais je t'ai pas dit que ça. Enfin, le PSG est arrivé à une très très bonne période. Là, actuellement, tous les matchs n'ont pas été réussis.
Bien sûr.
Ok. Toi, quand c'était pas réussi, tu disais que c'était formidable.
Non. Comme à Newcastle, par exemple.
Exactement.
Sauf que c'est vieux.
Comment ça, c'est vieux?
Enfin, par rapport à la période actuelle.
En février, c'était bien.
En février, il y a eu des choses très bien. Ouais. Il y avait déjà du. Barcola avait progressé. Vitinha était installé.
N'oublions pas non plus le match aller contre le Barça, les gars.
Exactement, complètement raté. Non, mais en fait,
Complètement. Il a changé à la mi-temps. Il a rectifié.
Oui,
t'as pas vu la rectif à la mi-temps du match aller?
Bien sûr que si. T'inquiète pas, on a tout vu. Ce qu'il faut, c'est ne pas oublier les choses. Et moi, j'ai toujours dit, sur le jeu, puisque je l'avais dit dès le début de saison, il y a des moments où on sera surpris, il y a des moments où il y aura des dingueries, il peut y en avoir encore, et encore, je l'espère, 3 matchs en Ligue des Champions, et il peut y en avoir, exactement comme son maître a pensé, qui est d'un tout autre niveau, Guardiola, a pu faire perdre la Ligue des Champions
et à son équipe. Et sans dinguerie, il pourra perdre aussi, hein, parce que c'est le foot. Hein.
Excuse-moi de penser, mais tu ne seras pas d'accord. Raison. Que l'équipe d'hier soir, elle a pas de dinguerie, c'est un 4-3-3 basique. Excuse-moi de penser que à Montjuïc, c'est un 4-3-3 classique et que finalement, c'est ce que j'appelle de mes voeux depuis longtemps.
Excuse-moi de penser que toi qui disais qu'il y aurait Barcola à gauche et Mbappé dans l'axe, c'était une bêtise parce que Mbappé était meilleur à gauche. Eh ben, c'est Barcola à gauche et c'est la meilleure équipe.
Mais Flo, j'ai le droit.
Donc t'as le droit d'avoir un 4-3-3, mais t'as le droit de t'être trompé sur le fait que Barcola à gauche n'était pas une erreur.
Je vais te dire et je continue de penser que Mbappé, Ramos, Dembélé, c'est la meilleure ligne d'attaque. J'ai le droit de le penser.
La différence
de la même façon et rien ne dit que c'est pas une bonne équipe sauf qu'il ne veut pas le faire et je m'en fous.
Non, c'est pas qu'il veut pas le faire,
ça marche Daniel, je suis content.
C'est pas qu'il ne veut pas le faire, c'est que là
il
où
estime
il est
que c'est
là,
pas bien.
Non, faux,
pas de problème.
Faux. Là où il est plus fort, Luis Enrique, c'est qu'il a tellement préparé ces différentes formules que celle que tu viens d'énoncer, elle peut très bien avoir sa place contre Dortmund.
Et ben je serais content.
Parce qu'il les a rodées.
Je serais content.
Et ce qui s'est passé hier, c'est pas juste un 4-3-3 classique.
Ce sont des bidons.
Non, ce qui s'est passé hier, comme tu le dis, c'est pas juste un 4-3-3 classique. C'est qu'après avoir challengé ses joueurs et les avoir fait évoluer à toutes ses positions.
Finalement, il a remis un truc basique.
Pas du tout. Il est capable de les faire rentrer dans le moule. La structure est plus importante que les individus.
Flo, honnêtement, je m'en fous, c'est pas de ça.
C'est un très bon penseur du foot.
C'est pas de ça dont je voulais parler. Parce que tu m'as reproché de porter un jugement sur l'humain.
Tout à fait.
Voilà.
Qui, à mon avis, a biaisé le tout, parce que pour le fond, il y avait des choses à dire.
Mais il a biaisé, comme pour Deschamps quand il traite mal Benzema et que je dis que c'est un menteur et que ça me vaut un procès.
Oui, mais là, en l'occurrence, par rapport à ses joueurs, qu'est-ce qu'il a fait par rapport à des joueurs qui méritent ça? Parce que par rapport à nous, journalistes, peu importe.
Pas peu importe, Flo. Je pense que si un homme politique faisait ça, tu serais le premier à dire ouais, qu'est-ce que c'est que ça?
Comment je veux dire, en tant qu'observateur, tu t'es senti. Toi, tu as dit, j'aime pas ce type.
Ouais.
Sur la base de quoi tu peux dire.
Tu m'enlèves le droit.
Moi, il y a des gens que j'aime pas, mais s'ils font des trucs bien, je vais dire, je l'aime pas, mais il fait des trucs très bien.
Eh ben, écoute.
Toi, t'as eu du mal à voir qu'il faisait des trucs bien parce que tu ne l'aimais pas.
Jamais.
Dans l'émission où t'as dit ça, t'as un peu dit ça. Dans l'émission où tu as dit, je l'aime pas, tu as dit, de toute façon, ce gars-là, j'ai pas envie de l'analyser, je l'aime pas.
Le foot, en fait, déclenche tellement de passion que, en fait, on n'a pas le droit, dans le foot, d'avoir un regard humain.
T'as raison, si.
On a le droit ou on n'a pas le droit? Donc, genre, tu gagnes, tu fais ce que tu veux.
Non.
Tu gagnes, tu traites les gens comme tu veux. Tu gagnes, t'as le droit d'envoyer chier tout le monde. Hier soir,
tu n'as pas le droit de commencer.
À un moment, c'est. Oui. Tu veux bien m'écouter.
Non, mais c'est pour débattre.
Tu vas répondre. Pardon, mais hier soir, si toi tu fais une interview et qu'il t'envoie chier, ça, tu dis c'est normal, vas-y, envoie-moi chier, j'ai aucun problème.
Je peux te donner un exemple?
Donc, hier soir, dans une interview qui n'a pas été diffusée et qui sera peut-être diffusée prochainement, puisque visiblement il a un contentieux avec Alex Ruiz. Et je me fous de ça, moi je prends pas parti. Je veux juste comprendre. Et visiblement, le fait qu'il parle bien espagnol, ça doit faire en sorte qu'ils peuvent avoir un dialogue. Il l'a traité comme une énorme merde, en lui disant que il avait noté que dans le jeu, t'as vu du jeu en attaque rapide hier soir ou pas toi?
Oui, j'ai vu tout. J'ai vu de l'attaque placée, de la transition.
T'as vu aussi de la transition, notamment un très beau quatrième but.
Bien sûr.
Voilà. Il l'a envoyé chier en disant que son équipe ne jouait jamais en transition en attaque rapide et que c'était rien comprendre au foot que d'avoir vu ça. Juste parce qu'il veut pas. Mais en fait, voilà, c'est tout. On va évacuer ça. C'est exactement.
T'en reviens à la com.
Je n'ai parlé que de ça. Non. Sauf que tout le monde m'emmerde avec ça.
Non.
Tout le monde
m'emmerde. Parlé que de ça.
De toutes ces dingueries que tout le monde a vues.
Tactique.
Et alors
tu as parlé choix de joueurs. Tu as parlé non progression.
On n'a pas le droit.
Ça n'est pas le cas.
On n'a pas le droit.
Non. Sauf que tu dis tu n'as parlé que de ça. Ça n'est pas vrai.
Alors.
Tu n'as pas parlé que de communication. Là, ce terrain sur lequel on était en partie d'accord et on peut être d'accord sur la com. Sur la com. En partie. Parce que j'estime, Daniel, qu'il a agité un chiffon rouge, que toi tu t'es précipité dessus pour protéger son groupe qui avait des faiblesses. Voilà. Tactique, vieille tactique de communicant.
On est obligé d'aimer ça?
Non, mais bon.
On est obligé d'aimer ça?
D'être naïf et de foncer comme un taureau dans un chiffon rouge.
Voilà, et d'autres et tout. Est-ce qu'on est obligé d'aimer ça?
J'aimerais que tu
On a le droit de le dire. Tout le monde m'emmerde avec ça.
Moi,
laissons finir la démonstration et après on installe le débat.
Quand hier il va poser la question qu'il a envoyé, il dit non, vous n'aviez rien compris, vous ne comprenez. Tout à l'heure, tu vas nous parler de Pierre Sage. Alors peut-être que je fais la fine bouche, parce que de toute façon la saison du PSG est tellement belle, parce que je la trouve belle, puisque j'avais même annoncé qu'elle serait belle, que le PSG perdrait pas contre des équipes moins fortes, que le PSG nous ferait découvrir des joueurs.
Vous voyez quand même pas gagner Vitinha aussi loin en Ligue des Champions. Après avoir dit que le groupe de Ligue des Champions était ultra faible, et qu'on a, alors qu'on a deux demi-finalistes. Ah si, on a dit qu'il s'en était sorti miraculeusement.
C'était la plus dure de la phase de poule. J'ai dit que c'était la plus dure dans la phase de poule. Sauf qu'il faut être un petit peu, il faut être un petit peu lucide et relativiser. Enfin, merde, le parcours, il est formidable, on est très content de ça. Mais n'oublie pas que le match retour contre Newcastle, c'est un penalty plus qu'arraché à la dernière seconde qui te permet de te qualifier. Sinon, t'es bien dans la merde quand même. Donc, il faut pas non plus tirer des feux d'artifice dans tous les sens.
Ce qui est formidable, c'est de le faire justement avec une équipe qui est pas la meilleure du monde, Daniel. C'est ça qui est beau cette saison.
Mais je n'ai fait qu'annoncer en août que cette équipe, pendant que tout le monde ne faisait que pleurer sur le départ de Verratti, de Neymar, de Messi, je disais, cette équipe, elle sera formidable. On aura un bel état d'esprit. Et à un moment, j'ai mis un stop parce que je n'aime pas les gens qui, sous prétexte qu'ils gagnent, traitent les gens comme de la merde. J'aime pas ça. Est-ce que tu m'autorises humainement à ne pas aimer quelqu'un?
Oui, sauf que.
Une fois qu'on l'aura dit, on pourra passer à autre chose? Non, on pourra se réjouir des résultats du PSG?
Non, mais
passerai à autre chose. Et toi, tu passeras pas à autre chose si t'as pas envie. Mais je vais terminer avec l'interview d'hier. Parce que quand il l'envoie chier en lui disant derrière, non, tu comprends rien, toi et tes consultants, donc des anciens joueurs, vous comprenez rien, il n'y a pas de transition chez nous, on contrôle tout, on ne fait que du jeu de possession. Et qu'il l'envoie chier. Et qu'il lui dit, mais vous avez tout aimé du match? Et qui lui répond, toi, t'aimes toute ta femme? Voilà. Moi, j'aime pas les mecs qui parlent comme ça. J'aime pas ça. J'espère que cette interview sera diffusée. Voilà. Pour l'instant, on stat. Voilà. Moi, j'aime pas ces.
Le diffuseur qui l'a dans la poche, en l'occurrence.
Voilà. Bon. J'aime pas ces trucs-là. J'aime pas qu'on parle comme ça aux gens.
Moi, j'aime pas que tu dises trop de gros mots. Là, t'en as fait quatre d'affilée.
Le succès ne doit pas tout autoriser. C'est tout. Je n'ai juste dit que ça. Pour le reste, il y a des choses que j'ai beaucoup aimées. Il y a des choses, notamment la construction collective, et quelque chose qu'on n'a pas du tout évoqué, dont le PSG avait vraiment besoin, et ça a probablement jamais été dit, c'est le psy qui travaille avec lui. Le psy est formidable. Parce que mentalement, même si, attention, j'ai vu des trucs, les mentalités de guerriers et tout, quand t'avais éliminé le Bayern en 2021, on disait la même chose. C'est déjà arrivé. Mais rarement, tellement rarement, que je suis absolument d'accord pour que ce soit une réjouissance collective. Et moi, à partir de maintenant, et après, je vais parler de ton chouchou, parce que comme c'est également le chouchou de mon fils, comme ça, on va également ranger ce dossier une bonne fois pour toutes et arrêter les délires que j'entends sur le génie. Sur le génie du PSG, parce que
c'est la photo qui t'a pas plu.
Bah non, avec c'est génial. Tu vois, si on gagne la Ligue des Champions, je me fais cette coupe, tiens, si tu veux.
Tu l'as vu la photo?
Ah oui, sur la photo de Daniel avec la coupe de Daniel avec la coupe de Barcola. Voilà,
parce que évidemment, moi, tu sais, j'aime pas m'emballer. Moi, je suis le mec qui a jamais comparé Ben Arfa à Messi, qui a jamais pensé qu'Entep ferait carrière en équipe de France, qui a lutté contre ceux qui disaient que Serge Aurier était le meilleur arrière droit d'Europe, que Yann Mvila serait un grand joueur de Ligue des Champions, qui ont jamais appelé Imbula phénoméno, qui, à part au début quand il est arrivé, se sont pas mis à genoux Verratti, mais qui ont compris la supercherie que ça deviendrait. Pareil pour Neymar. Donc, fin de l'histoire. C'est pas un crack à mes yeux. J'ai le droit de le penser. Ça n'est pas un crack à mes yeux. Je le pense. Basta. Pour moi, un crack,
on parle de Barcola là, voilà. Évidemment,
en haut à droite, en haut à gauche, les cracks sur ces dernières années, j'ai fait une petite liste. Foden en est un, Mbappé en est un, Mahrez en a été un,
Sadio Mané en a été un,
Salah,
personne.
Rashford,
Bernardo Silva, c'est juste Silva, que t'as dit qu'il avait pas le niveau Ligue des Champions.
Vinicius en était un, Yamal en est un actuellement. Ouais. Tu te souviens de joueurs qui s'appelaient genre Chiesa qui a un peu disparu, Leroy Sané à un moment, Sterling qui a commencé en étant un tout droit qui s'est amélioré, Doku qui est en train de progresser, mais qui à mes yeux n'est toujours pas un crack. Serge Gnabry, qui a gagné la Ligue des Champions avec le Bayern en 2020 en étant un fou furieux. Kvaratskhelia, le mec de Naples, l'année dernière, l'Europe entière le voulait. Cette année, un petit peu de côté. Sancho, l'Europe entière le voulait. On l'a oublié, il revient un peu, le PSG va le retrouver avec Dortmund. Adeyemi, pareil à Dortmund. Joao Félix, 120 millions. On ne sait plus trop où il est maintenant. Rafinha du Barça. Des joueurs de côté comme ça, il y en a plein. À mes yeux, c'est très bien ce qu'il est en train de faire. Hier, c'est bien. Maintenant, il lui faut un contexte favorable. Et je le répète, à mes yeux, ça n'est pas un crack. Voilà. J'ai le droit de le penser ou il faut se faire insulter du matin au soir parce qu'on a un avis aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça. Aujourd'hui, c'est le joueur du Barça hier qui est menacé de mort en Espagne parce qu'il ne fait pas un bon match et tout ça. Moi, je ne sais pas jusqu'où ça va aller. Des menaces comme ça, je peux en recevoir juste parce que je dis que Barcola n'est pas un crack ou c'est un agneau qui doit progresser. On en arrive à ce genre d'extrémité maintenant?
Bon, espérons que non. Dans un instant, on continue le débat.
J'espère bien que non, mais tu crois qu'il se passe quoi en fait sur les réseaux, Gilbert?
Ah bah attends, alors ne considère pas les réseaux comme la vraie vie, c'est toujours la même histoire.
Moi, hier soir, j'ai émis
la vie que j'aurais aimé voir Mbappé jouer. Je me fais insulter depuis comme quasiment jamais.
Donc on est dans un délire. Il y a un climat de passion.
Je ne veux plus rien gâcher.
Oui, bien sûr.
Maintenant, on y va tout droit. L'OM et le PSG ont 3 matchs à jouer que j'espère parmi les plus beaux de leur histoire. Maintenant, on va ranger ça parce que je n'enlève aucune virgule à tout ce que j'ai dit depuis le début de la saison.
Allez, pub, et on continue le débat avec vous au 32-16. À tout de suite.
RMC jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
Il est 22h28, Florent Gautreau et Daniel Riolo est là. Milan a marqué 2-1 désormais pour l'Inter qui doit gagner pour être champion. Il reste 10 minutes à tenir pour y arriver. Sinon, ce sera trop bien plus tard.
J'espère que cette énième mise au point, les CM qui font que découper là, quand ils mettent paf, 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 équivaut après les menaces et les enseignements des semaines.
C'est notre organisation interne.
Ce serait bien qu'ils mettent, ils ont qu'à mettre l'extrait dans son ensemble, comme ça ils écouteront tout.
C'est un peu long en fait pour mettre en entier.
Ah oui, mais le problème c'est que Twitter ne correspond pas à une pensée normale. Pardon.
Oui, non, 25 minutes ça rentre pas. C'est vrai que c'est pas possible.
Non, mais le simple fait de dire que tout allait arriver la manière dont ça s'est passé, je l'avais déclaré au mois d'août et c'est exactement ce qui s'est passé.
Non, c'est novembre.
Ouais, novembre, pardon. C'est pas tout à fait vrai. C'est que
je viens de te le lire.
Ouais, t'as lu ce passage-là, mais entre les deux, il y a eu une forte évolution qui t'a fait dire que il se trompait et que aucun coach ne faisait ce qu'il faisait.
Ouais.
Ce qui est pas vrai.
Bah,
c'est pas vrai. C'est pas vrai. Les autres coachs qui sortent des joueurs et qui te font tourner, Klopp l'a fait. Guardiola, il sort de Bruyne à Londres.
Il joue avec un système qui.
Attends, c'est bon parce que moi j'ai écouté. Donc le côté. Non, mais le côté Géo trouve tout entre temps, on va dire, après novembre, tu as dit ça ne sert à rien. Tu
m'as dit ça. Ça ne sert à rien.
Alors qu'il te trouve. Alors que.
Comme le pense Christophe.
Christophe se trompe et Christophe, comme toi.
On se trompe tous alors.
Oui, non, pas tous. Pierre Sage ne se trompe pas, lui, par exemple. Il a dit, il a pris une leçon, il a expliqué pourquoi. Attaque placée, effectivement, attaque en transition ou coup de pied arrêté.
Une équipe 3 fois supérieure.
Il a pris une leçon, a-t-il dit. La leçon est validée. Effectivement, il avait expliqué pourquoi. Il s'organisait de cette façon dans l'interview de samedi à l'équipe, qui était une très bonne interview. Et il a dit, ben voilà, ce que j'avais expliqué dans l'interview s'est passé. Les différents changements qu'il fait, je retrouve tout comme tu le dis.
Non,
c'est pas possible. J'ai attendu 11 minutes 30.
J'ai pas commencé la phrase que t'as déjà coupé.
Donc, je retrouve tout, ça ne sert à rien. Ça, c'était une de tes critiques. Il t'a démontré avec ce match retour contre le Barça et même depuis la mi-temps du match aller et avec le match hier contre Lyon que justement ce turnover, justement cette habitude qu'il a de faire jouer les joueurs à différentes places et surtout de les faire entrer et de les impliquer dans la rotation allait être efficace et l'a été. Tu l'as vu, ça tu l'as dit, tu t'es trompé parce que tu as dit que ça ne servait à rien, ça sert à quelque chose.
Excuse-moi, t'es devenu commissaire de police, comment ça se passe?
Je te dis, tu as dit que ça allait marcher, tu as dit que ça ne marchait pas.
T'as pas besoin d'être sentencieux. Moi, je te dis que la plupart de ces expériences n'ont servi à rien.
Faux. T'as démontré l'inverse
hier. C'est ton avis. Arrête de dire faux, c'est ton avis. Moi, j'ai mon avis là-dessus.
Tu vois les matchs.
T'as vu les matchs.
Non, mais t'as vu les matchs quand même.
Je trouve que ça marche mieux quand il y a un 4-3-3 basique.
Mais ça, c'est autre chose.
Toi, tu dis. Avec des mecs à leur place.
Non, tu dis le fait de faire des changements ne sert à rien. Le fait de faire des changements sert parce que les joueurs sont habitués sur la fameuse imprévisibilité.
Mais je n'y crois pas.
Oui, mais là, il t'a démontré sur le terrain que ça marchait. Et que dit Pierre Sage? Pierre Sage te dit exactement.
Et Pierre Sage, c'est qui? C'est l'évangile maintenant?
Il connaît le foot,
il est entraîneur depuis 6 mois,
c'est ça que tu sais pas.
Mais
non, il est entraîneur depuis 6 mois depuis que toi tu voulais lui mettre un coup de pied au cul en disant le prof de sport dégage.
Mais
t'as
c'est
dit ça,
toi tu es commissaire.
T'as dit ça.
Depuis Thibaut lui donne des cours.
Tu l'as dit ici dans l'after.
En fait, c'est parce que Thibaut lui donne des cours, c'est ça.
Tu as dit Pierre Sage qui dégage. Non, Pierre Sage, il est dégagé.
Toi tu étais là, toi tu viens tous les jours ici.
Non,
tu viens une fois par semaine et t'arrives, tu fais le commissaire de police.
Ouais, bah oui,
parce que tu veux les menottes, tu vas me noter.
écouter aussi.
Non, 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 il y a
comment
pas besoin.
Ça va se passer.
Non, tu vas juste écouter.
C'est toi qui sais, en fait.
Non, tu vas écouter.
Toi, t'arrives et t'es l'évangile.
Ouais, toi, quand Pierre tu sais pas, regarde. T'as vu la Gilbert, t'as vu la technique.
La technique, Flo. Moi, je fais comme insulter en permanence. Calme-toi.
Je t'insulte pas, je suis un préfet.
Les gars,
calme-toi.
Qui est un peu gênant.
Calme-toi, ne joue pas.
Mais moi, il y a un truc qui est un peu gênant, c'est qu'en fait, moi, je pense qu'on ne devrait pas, parce qu'on est là tous les soirs. Donc on est là tous les soirs à analyser souvent ce qui vient de se passer. C'est-à-dire qu'on arrive après un match à chaud, après le Barça, après un match de Liga comme hier soir et tout. Sauf que, bah, évidemment, ça peut arriver que tu dises un truc en octobre, et puis qu'on dise l'inverse en novembre, et puis l'inverse du contraire en décembre, parce que bah, les circonstances.
Moi, je te dis juste...
Attends, parce que les circonstances des matchs font que parfois c'est comme ça. Évidemment, on peut tous ressortir les déclarations des uns et des autres sur six mois. Je veux dire,
mais en fait, les ressorte.
La vérité du foot, en fait.
Aucun problème.
Non, mais la vérité du foot, elle évolue.
Mais,
en fait.
Mais moi, je prends mes déclats, je vais prendre tous ceux qui chialaient quand Verratti est parti, quand Vitinha était une chèvre, quand il fallait pas faire jouer un tel ou un tel, tout ça. On va tout faire. Et puis, on va prendre tous ceux qui sont régulièrement à l'antenne, pas ceux qui viennent une fois de temps en temps et qui, du haut de l'Olympe, sont sentencieux. Parce que maintenant, Pierre Sage, c'est devenu l'entraîneur qu'il fallait écouter absolument. Ben, tu vois, Pierre Sage, il a donné une interview qui était absolument passionnante, Flo. Pierre Sage, il a donné une interview passionnante.
Et il t'a expliqué par A plus B que Luis Enrique avait raison de faire ce qu'il faisait.
Tu sais quoi, Pierre Sage? Soit on va l'inviter, soit je vais l'appeler puisqu'il écoute
bien sûr.
Et je vais en parler avec lui, je vais lui dire pourquoi je suis pas d'accord.
Il y a un débat, c'est un très bon débat. C'est un débat.
On débat pas parce que toi
débat.
Tu dis
toi,
bidon, t'arrives,
t'as parlé pendant 14 minutes
et
t'écoutes
pas. Tu comprends rien.
Non,
si tu
le
dis,
Bruno.
Si tu le dis.
L'autre jour, je t'ai dit que t'étais bidon.
Voilà.
Mais là, non.
Mais est-ce que moi, de ma vie, je t'ai déjà dit ça? Est-ce que de toute ma vie, je t'ai déjà dit ça?
T'as dû dire un peu pire.
Non. Jamais de la vie. Jamais de la vie.
Faut que t'écoutes, Daniel. Faut juste que t'écoutes un peu ce qu'on.
Je t'écoute.
Je te fais pas une leçon. Je te demande de m'écouter.
Voilà. Tranquillement.
Je te demande de m'écouter tranquillement. Allez. Donc, sur ce jeu où trouve tout, oui, ça sert à quelque chose. Et je te dis que Pierre Sage l'explique, non pas parce que c'est le mec qu'il faut écouter absolument. C'est juste je te donne une citation de quelqu'un qui te démontre et qui connaît le foot. Juste parce qu'il est en train de Lyon.
Il en pense, par exemple.
Bah, peut-être, très bien. Peut-être. Mais quand tu me dis Duga, moi, je suis pas d'accord avec Duga. Et Duga, toi, il a un problème personnel aussi. Donc, comme tu l'as dit toi-même, le fait que personnellement, tu ne puisses pas le blairer, fait que tu es devenu aveugle vis-à-vis de tout ce qu'il a fait. Donc,
mais
juste pour finir.
Mais si. L'esprit collectif, je l'ai souligné tout de suite, la mentalité géniale de ce club.
Mais pourquoi
cette
entre
équipe,
novembre et février, t'as oublié? Tu disais, est-ce qu'on a progressé? Est-ce qu'on a progressé? Bien sûr qu'on a progressé. Il a installé Vitinha en 6. Il a mis Barcola à gauche. Il a mis Mbappé dans l'axe, effectivement, pour changer, tout en ayant la possibilité de le remettre à gauche. Donc, oui, il a fait progresser l'équipe. Oui, il a mis Barcola. Oui, je ne dis pas que c'est un crack, Barcola. Pareil, on va y revenir. Barcola, depuis le début, je dis juste, quand tout le monde hurlait, je vais faire comme toi, quand tout le monde m'a hurlé dessus cet été, quand on m'a dit, qu'est-ce qu'il vient foutre au PSG où il jouera jamais? Il joue. Il devient titulaire. Luis Enrique en fait un très bon joueur et capable de jouer en Ligue des Champions. Toi, tu nous dis, sur son premier match de Ligue des Champions, c'est bon, il est gentil, Bambi, c'est un agneau, il peut pas jouer la Ligue des Champions. Si, il peut jouer la Ligue des Champions, je te dis pas pour autant que c'est Messi. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça, c'est de l'exagération.
Mais tout le monde peut
c'est
la jouer.
Un crack.
Mais tout le monde peut la jouer.
Tu te rends compte qu'ils ont pris un joueur,
on
lui avait craché dessus, alors que c'est un mec qui est en train de nous faire la démonstration. C'est incroyable.
Tu sais, la vérité. Allez,
c'est pour ça que je me suis focalisé sur Bambi.
Quelqu'un d'intelligent et qui aime, qui aime les nuances et comprendre. En quoi agneau et Bambi, c'est une insulte?
C'est pas une insulte. Je dis juste que c'était méprisant à l'époque.
Ah bon?
Ouais. J'ai trouvé que la façon dont tu l'as dit, t'étais au parc. Je l'ai écouté. Je vous ai écouté en direct. T'étais au parc. La façon dont tu as parlé de lui ce soir-là.
Et alors?
C'était méprisant.
Et donc?
Et donc,
tu l'as jamais fait sur les joueurs, toi?
Non, mais peut-être, mais je te parle de Luis Enrique, qui est méprisant avec les journalistes. Et toi, t'es méprisant avec les joueurs. Je veux dire, là, Barcola, ce jeune gamin.
Jamais rien, alors.
Non, mais un jeune gamin.
Alors, tu sais quoi? On va fermer la boutique.
Non, on ne dira plus jamais rien.
Tu t'es mis dans ce camp-là,
toi, on va te défendre.
Tu t'es mis dans le camp de ceux qui voulaient plus jamais rien dire.
Non, bravo.
Allez, on va repartir sur de bonnes bases dans un instant. Il est 22h36. Monaco Lille.
On ne fait que tirer les pompes à tout le monde.
Dans quelques instants.
J'ai pas fini.
Puisque Daniel a tout rangé, donc t'as rangé ses dossiers, c'est bon.
Ah non, mais on a rien fini.
Moi, je donne la clé du placard à
Marquinhos. Marquinhos challengé, c'est Luis Enrique. Il est redevenu très bon. Barcola très bon à gauche, c'est Luis Enrique. Vitinha aussi, c'est Luis Enrique. Le turnover qui implique tous les joueurs, c'est Luis Enrique. Tu l'aimes pas. C'est peut-être.
Mais je continue de penser ton erreur.
C'est ton erreur. Tu t'es laissé aveugler par un problème personnel. Je ne sais pas lequel. Je ne sais pas pourquoi le mec est sorti par les yeux.
J'ai simplement le droit d'avoir un avis humain.
Allez. Monaco Lille,
on
maintenant.
Peut ou pas? T'en as, toi, sur les hommes politiques, sur les stars, tu donnes des jugements.
J'essaie de regarder vraiment.
Mais sur
ce qu'ils
foot,
font.
On n'a rien le droit. Si. Le foot, on peut pas.
Sur
l'aspect
fond,
humain,
le
c'est
fond,
pas important.
Le fond.
Regarde dans un instant, on se retrouve ensemble, les gars. Et on passe
mais
à autre chose.
Est-ce qu'on peut ne pas être
à
d'accord
tout de suite
avec toi?
Dans l'after.
RMC, 22h, minuit, l'after foot.
Gilbert Brisbois.
Il est 22h40, l'after continue avec vous, 32-16, Florent Gautreau, Daniel Riolo sont là après ce débat irritant concernant Luis Enrique et Barcola, le PSG. On va passer aux autres parce qu'il est là déjà 22h40, 40 minutes d'émission passée. J'aimerais quand même qu'on évoque les autres matchs de mercredi parce que je l'ai dit en début d'émission, c'est l'événement un peu de ce début de semaine. Pas mal de choses pourraient se jouer dans 48 heures. Le titre pour Paris qui les mettrait tranquilles au moins sur ce plan-là d'ici la fin de la saison. Et puis Monaco-Lille que vous avez vu ce week-end avec de belles dynamiques. Les Lillois qui ont battu Strasbourg en faisant un début de match de feu. Monaco qui a gagné également à Brest. Et donc, on a le match qui oppose les deux équipes mercredi. Est-ce que vous avez le sentiment, les gars, qu'on a là une sorte de moment charnière qui pourrait, en cas de victoire de Monaco, leur assurer quasiment la deuxième place? Je rappelle que pendant ce temps-là, Brest est plutôt sur une spirale négative. Comment est-ce que vous voyez cette confrontation entre ces deux équipes qui marchent bien en ce moment?
Ouais, déjà dans cette fin de saison, avec ce qui ressemble à une finale pour la zone Ligue des Champions, il y a une donnée que j'imagine, je pense que vous l'avez évoqué ces derniers jours, mais ce qui se passe avec le calendrier, honnêtement, c'est pas vraiment net pour tout le monde. Hein. Effectivement, on en revient au thème de la passion qui anime tout le monde sur cette fin de saison, parce que elle est formidable cette fin de saison pour plein de choses. Je comprends que la LFP veuille tout faire pour protéger nos deux candidats européens. Mais pour une équipe comme Nice, puisque tu parles de Monaco et Lille qui vont s'affronter, mais Nice, en gagnant, c'est redonner le droit d'espérer y aller. Mais dans 10 jours, ils vont faire 2 énormes matchs en 3 jours. Donc il y a des équipes qui peuvent pas les faire quand c'est Coupe d'Europe et Championnat, mais d'autres équipes à qui on va l'imposer en 3 jours dans la même semaine.
Toi, tu estimes que la réorganisation de calendrier a pas dû l'être?
Je sais pas, je comprends et en même temps je comprends pas. C'est très difficile d'avoir un avis tranché sur cette question. Oui, c'est bien de protéger nos deux candidats, mais il y a des équipes. Tu sais, les fins de saison, c'est là que tu fais un peu les bilans. Brest, tu disais, ils sont sur une mauvaise dynamique. Bon, honnêtement, je l'ai dit la semaine dernière après le match à Lyon. Eux, avec l'effectif qu'ils ont, ça leur coûte cher un arbitre qui délire dans un match. Parce que dans la foulée, t'es privé de Lesmelou dans le match d'après et qu'eux, ils n'ont pas un gros banc pour faire un turnover et pour maintenir tout le monde sous pression comme les grosses équipes. Ils se retrouvent privés de leurs meilleurs joueurs. Ils jouent contre Monaco qui a décidé de terminer la saison très fort. Bon, bah là, et on parle de mauvaise dynamique pour Brest. Ouais, on parle de mauvaise dynamique. Ils ne sont pas que eux responsables de leur mauvaise dynamique, quoi. Il y a des équipes qui amortissent le choc des aléas d'un championnat et d'autres un peu moins. Alors, le calendrier, je sais pas ce que vous en avez pensé, ce que vous en avez dit, mais
bon. Oh, c'était partagé.
Ouais, tout n'est pas net dans cette histoire. Alors là, oui, Monaco, en allant gagner à Brest, bon, bah, a donné l'impression de terminer fort. Moi, très honnêtement, ce match, est-ce que Lille, qui a beaucoup joué ces derniers temps, part désavantagé sur l'état de fraîcheur? Oui, probablement. Que Monaco apparaît un petit peu comme le favori maintenant pour la deuxième place. Mais
Lille bluffant en début de match contre Strasbourg là sur la première demi-heure. T'avais l'impression que physiquement ils n'avaient pas joué trois jours avant.
Mais après ils ont calé.
Ils ont un peu baissé, après, mais ils menaient. Après, bon, après, il y a eu de la gestion.
Mais tu sais, bon, la deuxième place au fond, on s'en fout. 2, 3, 4, peu importe. C'est la zone Ligue des Champions.
Bah, 4, t'as le tour de barrage quand même. Donc c'est quand même mieux d'être à 2-3.
Ah oui, c'est vrai que maintenant qu'on a rectifié que le 3+1 et non plus le 4+1 comme tu nous l'avais vendu. Le 3+1, oui.
Non, j'ai pas vendu
donc,
ça.
Lille, même en perdant, je vois pas en quoi on dit est-ce que c'est totalement rédhibitoire. Je sais pas.
C'est que Monaco en gagnant, là il y a déjà 8 points d'avance sur la 5e
oui.
place.
Monaco en gagnant prend l'option, clair, net. Et de la même façon, Lille en gagnant aussi. Est-ce que les deux équipes peuvent s'accommoder d'un match nul? Je pense que c'est une superbe affiche. Maintenant, je sais pas si on peut pas avoir également un match avec une espèce de malheur au perdant et qu'on se regarde un petit peu en se disant peut-être qu'il vaut mieux pas le perdre ce match-là, quoi.
Ça y est, l'Inter est champion pour la 20e fois de son histoire. On aura Johan Crochet un peu plus tard hein, qui va nous raconter ça. Le match vient de se terminer, le derby de Milan. Flo, sur Monaco,
Moi, sur Monaco, oui, je pense que Monaco, c'est quand même l'équipe de la fin de saison. Ils nous refont un peu le truc qu'ils font tous les ans, c'est-à-dire une fin de saison en boulet de canon. J'avais dit que il fallait vraiment qu'ils fassent podium 2, 3, même pas 4, mais vraiment le vrai podium pour le coup, et ils vont le faire. C'est l'équipe en forme. Moi, je suis plus mitigé sur l'histoire de Brest qui se retranche derrière l'arbitrage. Certes, les décisions arbitrales sont pas bonnes, mais je pense qu'ils touchent aussi leur plafond de verre. C'est-à-dire que quand ils mènent 3-1 contre Lyon, ouais, ok, l'arbitrage, ça compte, mais tu dois pas perdre ce match-là. Quand tu contre Brest, j'entends qu'au retour des vestiaires, avec sur le diffuseur, Eric Roy est toujours remonté contre l'arbitre. Je pense qu'un coach avec un peu plus d'expérience, tout en étant très très mécontent et peut-être à juste titre, hein, d'ailleurs sur l'histoire de Minamino, doit passer à autre chose pour aussi que ses joueurs passent à autre chose. Donc je pense que Brest sur ce match-là, enfin ces deux matchs-là, a montré, et c'est normal, des limites que il faut pas cacher derrière les problèmes d'arbitrage, je pense.
Voilà. Après, je voulais qu'on parle de Brest un peu plus tard, voilà. Mais mettons tout le monde dans le même sac. Alors, parce que sur Brest, faut pas oublier que le président, bon, nous, dans l'after, on s'en était réjouis, mais enfin, quand il avait dit, il faut en terminer avec le VAR, c'est-à-dire, en fait, dans l'ensemble de la saison super de Brest, on a toujours dit que nous, que c'était, on trouvait que c'était frais, que c'était un jeu super sympa, que Roy, au début, on n'y croyait pas trop et qu'il nous a bluffé et tout. S'il y a un petit point négatif, c'est qu'ils ont quand même pleuré sur l'arbitrage toute la saison. Là, récemment, ça arrive, c'est arrivé ces deux dernières semaines. Non,
mais pour le coup,
c'est facile de dire ça. Alors moi, j'aime pas trop quand on chouine et tout, mais c'est facile de dire ça quand t'es une petite équipe et que justement les aléas qui finissent par agacer à la fin d'un match, parce que tout le monde finit à un moment ou à un autre par chialer. Marseille l'a fait énormément aussi. Tout le monde l'a fait.
Oui, cette année, plein de monde a même envoyé des lettres. Des lettres à la Ligue.
Donc, quand t'es petite équipe, que ton banc est pas élargi, bah, ça a beaucoup plus d'impact sur toi. Franchement, ce qui s'est passé avec Lesmelou, moi, à Place d'Éric Roy, franchement, ça me gave.
Ah, mais ça, c'est une erreur de l'arbitre.
Mais l'erreur, c'est même pas ça.
D'ailleurs, tout le monde attendait à ce que son carton rouge soit effacé, et ça n'a pas été le cas.
Voilà, mais alors, c'est exactement ça que je voulais souligner. Parce que l'erreur sur le match, ça arrive, ok, on a. Mais que derrière, ce soit pas réparé, et que l'autre, il prenne un match, et qu'il ne soit pas là contre Monaco, ça, je trouve que c'est une injustice. Parce que sûrement, à froid, sorti de la passion, la commission peut dire, on lui enlève son carton rouge.
Bon, on n'a pas eu accès au dossier, peut-être qu'il y a eu des mots qu'on n'a pas. Que dans le rapport de l'arbitre.
Non mais enfin, pour revenir là-dessus, c'est juste que dans la gestion de ces moments-là, et même si effectivement il y a des remarques justifiées, et effectivement sur Lesmelou, le carton aurait mérité d'être retiré pour qu'il puisse au moins revenir avec son équipe au match suivant. Je pense que la façon dont je les ai vus contre Monaco menés, quand ils ont été menés, à aucun moment j'ai senti le Brest qu'on a pu voir dans d'autres matchs revenir. Mmh. J'ai l'impression que soit c'est de la fatigue psychologique, soit c'est de la lassitude, soit c'est tout simplement une question un peu de niveau là sur ce match-là. Me parler que de l'arbitrage pour ça, je pense que c'est un petit peu limité. Je pense, hein. Après.
Mais qu'il soit en dessous, après tout, contre des fortes équipes,
Sauf que tu ne veuilles pas l'accepter au point de dire, s'il n'y avait pas eu cet arbitrage, et Lyon et Monaco, moi, je pense que malheureusement, ils ont un peu coincé, ils ont un peu calé, et qu'effectivement, malheureusement, en plus, ils ont subi des décisions qui n'étaient pas bonnes. Après, pour revenir à Monaco, enfin, et au calendrier surtout, autant j'étais d'accord avec l'aménagement précédent là qui avait permis aux équipes françaises, on va dire, un aménagement un peu exceptionnel.
Le précédent, il
autant
passe.
Autant là, l'aménagement là, moi je trouve que là maintenant tu en viens à déséquilibrer le championnat pour les autres équipes. Et ça, c'est un vrai problème parce que finalement,
une fois que le PSG sera champion, on peut considérer que tous ceux qui vont jouer contre le PSG, ils pourraient dire bah c'est finalement quel PSG on va avoir,
notamment, je pense à Marseille qui physiquement était très très dans le dur de s'en sortir. Maintenant, il fallait laisser le calendrier tel quel parce que c'est inéquitable pour les autres équipes. Donc, je pense que c'est un vrai problème et que c'est lié quand même quelque part aux droits télé parce que là, la Ligue fait tout pour faire plaisir à Nasser, entre autres, hein, au PSG, mais à Nasser.
Merci de le dire.
Par rapport aux droits télé. Donc, ça, c'est une réalité politique qui s'impose, qui ne devrait pas s'imposer. Donc, c'est pas bien. Et tant pis si ça fait beaucoup de matchs. Il reste quoi? 3 matchs, 2 demi-finales, 1 finale éventuellement. Bah, c'est comme ça. Marseille, de toute façon, ils sont cramés, ils sont fatigués, ils sont blessés. Je pense que, d'une manière ou d'une autre, l'enchaînement des matchs va avoir lieu. Que ça les pénalise en championnat ou en Coupe d'Europe, ça va les pénaliser de toute façon à un moment ou à un autre. Fallait laisser le calendrier tel qu'il était. Et de toute façon, quoi qu'il en soit, calendrier ou pas, l'équipe qui n'a pas joué de Coupe d'Europe cette année, en l'occurrence Monaco, en tire quand même un peu les bénéfices là.
Sur la fin, au moment du bilan, effectivement.
Et
tu vois
ils ont cette habitude de finir fort. Ils sont en confiance. Ils ont les faits de jeu avec eux. C'est vrai qu'on va le voir. Hein,
franchement, Nice, les deux gros matchs qu'ils ont à la suite, un mercredi soir et un samedi soir. Ah, la place des Niçois, je l'ai mauvaise quand même.
Bien sûr, nous, on
peut peut-être viser la zone Ligue des Champions. Vous nous faites faire 2 matchs en 3 jours. Il manquerait plus que sur ces matchs-là, il y ait une histoire de carton et qu'un joueur important puisse pas jouer le samedi alors qu'il a joué. Ce sera pas normal.
Il aurait fallu. Dans un instant, Mohamed, supporter de Monaco, veut intervenir. On continue le débat ensemble. Ensuite, Pierre Sage sera au programme de l'After El Italy, l'Inter champion depuis quelques minutes en gagnant sur le terrain du Milan AC 2-1. À tout de suite dans l'After.
RMC jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
Il est 22h53, Daniel Riolo est là, Florent Gautreau est là, on parle de la course au podium avec donc le match Monaco-Lille d'après-demain. Et Mohamed est là, supporter de l'ASM. Mohamed, bonsoir.
Bonsoir l'équipe, bonjour Daniel, bonsoir Florian, bonsoir.
Salut. Qu'est-ce qu'il a fait Max? Il a mis en place une nouvelle liaison téléphonique, on t'entend parfaitement bien. C'est magnifique.
Ah bah écoutez, tant mieux.
Bon. T'estimes que Monaco a déjà fait le plus dur ou t'as encore un peu des doutes?
J'ai encore des doutes, mais j'ai une question à vous poser vous trois. Est-ce que selon vous, la 31e journée peut impacter la 29e journée?
Qu'est-ce que ça veut dire ça?
Ça veut dire qu'un carton rouge reçu à la 31e journée peut être joué, on va dire, la 29e. Singo et Benseguer ont reçu un carton rouge là, dimanche contre Brest. Mm-hmm. Et ben ils sont absents contre Lille.
Tout à fait. Bon, je vois ce que tu veux dire. J'ai compris.
D'accord.
Oui, toi, tu veux dire que cette règle ne devrait pas exister. Il ne devrait pas être suspendu pour ce match-là, vu que ce n'est pas l'ordre logique des matchs.
La logique, c'est qu'il ne soit pas là sur le match qui vient après, peu importe que ce n'est pas la bonne journée.
C'est la règle, ça, en fait. La règle, c'est
le match d'après. La règle, elle n'est pas logique. Qui sont absents contre Lyon, ok, parce que 31e, 32e ou 30e, 31e, c'est logique, mais 30e avec effet rétroactif pour un match de la 29e.
Ouais,
oui,
bon après,
le match a été décalé. Oui,
tu connais le foot,
dire.
Mohamed, ça se trouve, Monaco va battre Lille sans eux, et puis derrière, on va pas battre Lyon avec eux, donc tu vois.
Non, mais c'est que juste que tu joues, là, tu vas jouer tes deux plus gros matchs, donc Lille et Lyon, sans ton deuxième meilleur joueur après Golovin qui lui est blessé.
Ouais, c'est vrai.
Donc c'est aussi ça en fait qui est impactant, que tu joues que tu te manques Lyon et Clermont, c'est moins grave que quand il te manque Lille et Lyon. C'est juste ça. Après, avec le Monaco, on peut très bien gagner demain contre Lille et faire une perf minable contre Clermont. On a tellement l'habitude de ça avec le club.
Ouais, j'ai l'impression que là, c'est sur cette fin de saison, c'est un peu en train de passer.
Bah, oui et non, mais c'est quand même dur. Autant, je vous entendais parler tout à l'heure du match contre Brest. Et, bon, certes, ils ont chouiné sur l'arbitrage, mais si on est un peu honnête, Brest n'a pas existé. Enfin, est-ce que vous avez
sur ce match-là, moi, j'ai pas, y a rien à dire sur ce match-là. C'est clair, net. Je parlais plus globalement. C'est vrai qu'ils étaient arrivés à une forme de saturation par rapport à certains matchs. Et très honnêtement, quand on les renvoie, on peut comprendre. Après, on peut estimer qu'ils chouinent pas. Je pense qu'ils sont aussi dans une, Flo l'a dit, dans une lassitude un peu mentale et psychologique.
Les Brestois.
Avec l'idée de on va y arriver, on va pas y arriver. On est déjà en train de leur parler de l'année prochaine. Si à Ligue des Champions, il va falloir délocaliser, jouer dans une moitié de stade. Et est-ce qu'il y a des joueurs qui vont rester ou devoir partir? C'est pour une petite équipe, c'est jamais facile ces fins de saison avec ces récompenses qui peuvent tomber. Et vous, la récompense, bah c'est, elle est naturelle. Ils ont une forme d'obligation, Monaco. Et la récompense, j'espère qu'il va venir derrière. Parce que là, comme ça, s'il n'y a rien qui vient derrière, on se dit, mais Monaco, oui, ok, très bien, ils vont aller en Ligue des Champions pour faire quoi? Il va y avoir des mecs qui vont partir, des mecs, ils vont encore changer d'entraîneur, on ne sait pas. Sauf que là, il y a l'air d'avoir la carotte saoudienne.
Bah, là, la carotte saoudienne, ça, je ne sais pas trop.
Pour si, a priori, c'est quand même bien parti. Et auquel cas, bon, bah, ça veut peut-être dire de l'oseille, ça veut peut-être dire des joueurs, ça veut peut-être dire une nouvelle ambition, j'en sais rien.
Non, mais ce qui est fascinant, Mohamed, dans la saison de Monaco, donne-nous ton avis là-dessus, c'est la renaissance de certains joueurs. Donc, s'il y a eu renaissance, c'est qu'il y a eu travail fait auprès d'eux. Minamino, on est sans doute le pavillon témoin. Je veux dire, Minamino, tu te souviens comme nous de ses débuts avec Monaco.
Mais le début de saison est excellent. Après, il y a un gros trou. Et puis là, il redevient bien. Hein, mais la saison, elle n'est pas régulière.
Zakaria, c'est étonnant. Akliouche, c'est étonnant. Mohamed, il y a quand même des mecs qui ont su rebondir. Et c'est sans doute aussi ça qui explique la dynamique de Monaco.
Jeune joueur, il est bon à chaque fois qu'ils ont fait appel à lui. C'est vraiment un joueur d'avenir.
L'an dernier, on était plutôt sur du Ben Seguir l'an dernier.
Bah oui.
C'était Ben Seguir qui avait pris un peu plus après Ben Seguir a été blessé. Akliouche a aussi des. En fait, on n'a pas eu une équipe à 100% à chaque fois. On a eu, comme tu as dit, Golovin, il a été très bon, puis il a perdu un peu en influx. Pareil pour Minamino, notamment avec la Coupe d'Asie. Ben Yedder, pendant un moment, je crois, de novembre à février, il mettait but sur but, et depuis février à aujourd'hui, il n'a plus mis un seul but. Balogun avait fait un bon début. Puis là, il revient un peu, mais c'est toujours pas ça. Après, vous n'oubliez pas, on a Mbolo qui était blessé, qui revient petit à petit. Caio Henrique qui a été pendant longtemps le meilleur passeur alors qu'il était blessé. Donc, on a encore énormément de choses qui sont encore à traiter. Maintenant, Daniel parlait de l'an prochain. Je pense que l'an prochain, Fofana va partir. C'est quasiment sûr à 200%.
Oui.
Des joueurs comme Maripane aussi vont sûrement partir. Jacobs. Donc, c'est pas forcément le top. Mais je pense que si on arrive à garder, même moi je suis de ceux qui pensent que Ben Yedder devrait rester, ne serait-ce que comme doublure, avec voilà, on lui dit voilà, aujourd'hui la doublette ça va être Balogun, Mbolo, toi Ben Yedder, tu vas être on va dire le petit chapeauteur qui va être là.
Toi tu veux qu'il reste? Moi je pense que c'est fini.
Ben Yedder, s'il y a une offre exotique, je pense qu'il ira prendre l'oseille.
Ouais, mais judiciairement je suis pas sûr qu'il puisse aller. Judiciairement, je suis pas sûr qu'il puisse y aller.
Ça, c'est vrai qu'il y a ce dossier très important qu'il doit régler.
Exactement, parce que là,
je rappelle qu'il est en fin de contrat, là.
Il a résidence. Il ne doit pas quitter le centre de formation, le centre de performance de l'ASM.
Oui, il habite sur place, effectivement.
Exactement. Donc, je pense que. Après, voilà, il a toujours été bon, même s'il ne marque pas, il fait toujours ses matchs. Certes, il a plu. C'est pour ça que moi, je pense que si on lui dit, bon, voilà, vu ce qui se passe autour de toi, on divise par deux ton salaire, tu restes une année de plus comme on fait dans d'autres clubs comme le Real ou autre.
Je pense Tito qui va partir quand même à un moment donné. Il joue finalement pas tout le temps. Il y a cette affaire effectivement.
Il a enchaîné. Il a été titulaire les 7 derniers matchs. Il a que hier qu'il a pas joué.
Ouais. Après sur Monaco, il y a quand même un travail qui a été fait sur, on l'a dit, à la fois les jeunes qui sont là et qui confirment. On a parlé d'Akliouche, à la fois sur les joueurs qui ont été relancés comme Minamino alors qu'ils avaient fait des débuts compliqués. Ils ont un effectif, même quand il y a des absents, même quand tu fais tourner, c'est une des rares équipes, puisqu'on parlait de la rotation de Luis Enrique, c'est une des rares équipes qui peut se permettre de faire tourner autant en gardant une équipe.
Et pour ça, c'est l'anti-Brest.
Ouais, c'est absolument l'anti-Brest, c'est même l'anti-OM, si tu veux, puisque par rapport au problème d'effectif de l'OM. Donc, cette équipe-là, elle a une beaucoup de ressources, y compris sur le plan physique. C'est pour ça que moi, l'équipe qui est la plus impressionnante dans sa gestion du nombre de matchs, et notamment Coupe d'Europe, Championnat, c'est Lille. c'est oui. qui arrive à finalement à gérer hors PSG, hein, parce que le PSG, c'est logique et normal qu'ils aient un effectif supérieur, on va dire en nombre, y compris en nombre aux autres équipes de Ligue 1. C'est Lille qui est l'équipe la plus intéressante, puisqu'on parlait de performance et notamment d'accompagnement sur la prépa physique, sur ce qui n'a pas marché à Marseille, par exemple. C'est Lille qui est le plus impressionnant. C'est pour ça que on va voir l'opposition de finalement ce que sont les deux meilleures équipes. Je parle en termes d'effectifs à la fois individuels et collectifs, en dehors de Brest qui a vraiment performé plutôt collectivement, c'est Lille et Monaco.
Ah oui, Monaco, c'est pour ça que c'est le match de la semaine en fait.
Ah oui, Monaco-Lille, c'est le match.
Et je pense aussi sincèrement que Lille, quand on est un peu honnête, joue beaucoup mieux que l'ASM. Mon ASM, c'est vraiment pas.
Oui, ça, tu peux être honnête et le dire.
Ah ben oui, non, mais c'est sûr que la patte Fonseca est.
J'ai même vu, ne serait-ce que le match contre Aston Villa. Non, il y a un certain niveau, entre guillemets, et l'ASM, on a ce niveau-là, par moment. On l'a vu contre Nice, on l'a vu contre le PSG.
Tu sais, si on faisait un podium des entraîneurs, dans des styles différents, hein, de la Ligue 1, il y aurait évidemment pour moi Luis Enrique sur la première marche, il y aurait Fonseca et il y aurait Pierre Sage, pour d'autres raisons, puisque j'en parlais plus tout à l'heure, notamment, mais pour des raisons différentes, mais dans ce qu'ils apportent, justement, comme renouveau, comme idée différente même dans à l'intérieur d'une même saison. C'est vrai que Monaco, là on va dire qu'il s'appuie vraiment sur son effectif,
il arrive à faire tourner.
Bah moi je mettrais pas parce que je mettrais pas. Bah j'ai cité trois coachs qui ont quand même réussi quoi avec leurs équipes, donc on peut mettre encore ajouter un quatrième
depuis qu'il est arrivé à Brest.
Si tu fais le rapport effectif possibilité résultat,
la façon la manière où est le club quand il le prend, où il va le mettre. Si on fait plus de rapport entre les joueurs, la qualité de l'effectif, les moyens et le travail d'un coach, là j'avoue que je comprends plus là vraiment là.
Bah tu le mettrais au-dessus de Fonseca alors.
Ah non.
Ah bon, bah alors donc on n'est pas forcément d'accord. Hein, parce que mettre au-dessus de Luis Enrique.
Eric Roy ?
Ouais.
Bah oui.
Ouais, bah, donc là.
Ah oui.
Non. Non mais à effectif.
Ah bah c'est différent. Alors oui, si tu prends par rapport au budget.
Budget effectif résultat.
Mais c'est Eric Roy qui est en tête parce qu'il a réussi.
Au Brest, ça joue super bien.
Oui, oui, d'accord. Mais
c'est bien ce qu'il fait comme tu peux pas. Tu trouves pas ça bien ?
Si. Mais les autres, tu me dis Fonseca est meilleur que.
Fonseca, c'est bien aussi.
Bah, Fonseca, c'est formidable.
Ah ouais. Bah donc.
C'est un entraîneur assez.
Bah Luis Enrique hier contre Lyon, c'est formidable.
Ok, mais.
Donc c'est tout. C'est pour ça, c'est difficile de sortir.
Le podium, c'est bien. Ça fait trois.
Trois avec Roy, bah voilà.
Tu m'autorises, c'est bien.
Merci Mohamed.
C'est bien déjà, non, sur le podium.
Dans un instant, on va détailler un peu sur Lille, justement, avant de parler de Lyon ensuite.
Pierre Sage aussi, c'est bien.
Ce sera dans quelques minutes, Pierre Sage.
Non, parce que du coup, il n'y a pas Pierre Sage sur le podium.
Podium des 4. Ça fait plaisir, je descends avec Louis dans le podium des 4. Voilà.
J'aime quand après une heure d'émission, il y a un consensus comme ça qui se fait naturellement. C'est beau. À tout de suite dans l'after.